Bienvenue pour cette presque dernière table ronde de la soirée. En tous les cas, pour nous et cette scène, ce sera la dernière. Alors, ceux qui connaissent quelques-uns de nos intervenants sont d'ores et déjà tout contents parce qu'ils savent très bien que, du coup, il n'y a pas d'autres conférences après nous. Donc, si vous n'avez rien de prévu, on risque de déborder. Donc, on va parler d'art et pixels à l'heure de l'apéritif. Et donc, je vais commencer par présenter nos invités. Donc, je vais commencer par Olivier Cotte, ici présent, qui est un artiste, multitalent, hein, qui est passé de la danse à l'écriture, en passant par l'audiovisuel, la réalisation, la scénarisation de bande dessinée. Donc il va nous parler un petit peu de son parcours, et au gré de son parcours, donc son dernier opus, donc pour ceux qui l'ont déjà aperçu, donc c'est celui qui est donc derrière nous, Dark Vador donc versus Monsieur Spock, qui a dû faire beaucoup parler de lui, j'imagine, avec un titre aussi provocateur. Et donc il va nous expliquer quel est l'apport du numérique dans son travail, forcément, parce que effectivement ça peut paraître un petit peu, presque anodin de reparler du numérique à l'heure actuelle, mais vu qu'on est encore dans une période de transition entre ce qu'on appelait des outils traditionnels et le numérique, il est quand même encore bon d'avoir les témoins de cette ère presque révolue du traditionnel, dans quels que soient les métiers dans lesquels le numérique est en train de sévir. Donc merci à nos dinosaures d'être encore présents sur la scène, ils vont nous expliquer ce qu'il en retourne pour leur transition. Donc ensuite on aura donc Gwen de Bonneval. Ah, bravo Johan, merci de ta présence.
Mes amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Excusez-moi de ce léger retard, le train, vous savez.
Oh le salaud. Donc ensuite on aura donc Gwen de Bonneval, donc qui est dessinateur et scénariste, que les Nantais connaissent bien. Donc il va nous expliquer un petit peu sa carrière, il va nous parler, on fait un petit tour général et puis après on va revenir creuser un petit peu tout ça. Il va nous parler de sa carrière et puis surtout il va aussi nous parler un petit peu de sa toute récente mission en tant que président donc de la maison Fumetti, destinée à la promotion de ce bel art qui est l'art séquentiel et de la bande dessinée. Enfin, j'imagine que ça ne s'adresse pas uniquement à ce qui est compris dans les cases, mais justement, c'est peut-être pour exploser les cases. Et donc, il va aussi nous raconter un petit peu le parcours qu'il a eu à travers donc, sa création donc, du Cyclope. Enfin,
du professeur Cyclope.
Professeur Cyclope. Voilà, donc ça, on va un petit peu en parler. Après, donc, nous aurons effectivement notre petit retardataire, donc Johan, que tous les Nantais connaissent bien avec ses actions passées, futures et présentes donc, dans la bande dessinée, dont la dernière victime est Spirou. Et il va un petit peu nous raconter comment il est passé du traditionnel au numérique et qu'est-ce que ça lui a apporté, parce que l'avantage que l'on a, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement tous ces acteurs de l'art numérique aujourd'hui ont connu quand même le traditionnel. Ensuite donc on va pouvoir aussi discuter donc avec Valérie Mangin. Alors là c'est un autre apport au niveau du numérique, je dirais, donc scénariste. Je vais faire défiler quand même, parce qu'il y avait effectivement, on m'a confié un joli gadget que j'ai complètement oublié d'utiliser. Donc je reviens donc là sur le travail de Gwen. Monsieur Spirou, sans oublier ce cher Toto. Et donc voilà, donc les deux petites images pour illustrer un petit peu donc, le travail de Valérie et en tant que scénariste et aussi en tant directrice de collection, donc avec Cadran, et ensuite avec son cher et tendre Denis Bajram. Donc on sait que c'est un couple extrêmement efficace autour donc de la bande dessinée, par leurs actions de création et par leurs actions donc de défense et de promotion de la bande dessinée. Et donc avec Denis aussi, donc qui va aussi peut-être nous montrer, puisque là c'est l'heure effectivement et qu'on aura le temps, il va peut-être aussi nous montrer un petit peu de dessin sur la tablette justement. Alors je vais reprendre donc le fil. Donc Olivier,
Gilles,
quand on est, comme je disais, on est encore dans cette ère de transition entre le traditionnel et le numérique, hein, puisque le numérique n'a pas encore gagné tous les terrains. Et il y a aussi dans le public des personnes qui, en fait, quand on parle d'art numérique au niveau du dessin, ne savent pas très bien comment ça se passe, en fait. Donc ça, on va en parler, on va peut-être avoir des démonstrations par rapport au dessin en numérique. Et toi, dans ton parcours, en fait, comment as-tu vécu déjà l'arrivée du numérique ? Parce que ça, moi, j'aimerais bien le savoir un petit peu dans vos parcours respectifs, parce que c'est quand même, c'est une révolution. On l'a vécu de plein fouet, durant nos années professionnelles à peu près tous, et j'aimerais voir comment toi tu l'as vécu par rapport à ton travail de... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?
T'arrives au bout.
Par rapport donc à ta création donc de scénariste, de dessinateur, enfin d'auteur et...
Alors au départ, de toute façon, au Beaux-Arts, c'était début 80, il n'y avait pas de numérique. J'avais commencé à faire quelques expériences parce que ça m'amusait, de programmation sur un Sinclair qui avait un Z80 à l'intérieur. Alors bon, la programmation, c'était vraiment, il n'y a pas de logiciel, donc c'était de l'adressage en abscisse et ordonnée. On pouvait mettre une sorte de timeline et puis on pouvait faire une sorte de gif noir et blanc animé avec des croix et des carrés, quoi. Alors, parce que ça me tentait, à l'époque, en plus, il y avait Tron qui venait de sortir. J'étais un des rares à aimer ça, alors que pour beaucoup de monde, c'était la démonstration que l'ordinateur ne pouvait pas constituer un véritable outil parce que c'était froid, alors que, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne considéraient pas l'ordinateur comme un outil possible, c'est-à-dire au service d'une main. Et ils restaient sur l'idée qu'avec un ordinateur, on ne pourrait jamais réaliser de film. On ne pourrait jamais réaliser de dessin qui ait la même patte qu'avec les outils traditionnels. Ensuite, comme j'ai travaillé beaucoup dans la vidéo et le cinéma, enfin pendant 15 ans, au début, on n'était qu'en analogique. Le numérique est arrivé à la fin des années 80, ça coûtait extrêmement cher. On l'attendait avec impatience, mais rien que un magnétoscope capable d'enregistrer et de lire coûtait 1 million de francs. À peu près vers 88-89. Quant aux machines de post-production, elles étaient réservées à une élite. Il n'y avait pas d'After Effects, il n'y avait pas ce type d'outil qui permettait de faire des post-productions numériques, simples, et surtout à bas coût. Et puis bon, ça s'est démocratisé, et on a réussi enfin à pouvoir empiler les couches sans perte, alors qu'avant, quand on voulait rajouter une couche sur un signal vidéo préexistant, il fallait qu'on le recopie, et comme c'était en analogique, on perdait automatiquement, même si on réglait bien le signal, ce qui fait que à chaque génération, c'est ce qu'on appelait c'est comme ça qu'on appelait les recopies, on perdait, et au bout de 3-4, en gros, on finissait par avoir une image salie avec du bruit, une perte de contraste, de saturation de couleur, etc. Donc le numérique, une fois qu'il a été installé en vidéo, il s'est imposé progressivement pour le cinéma, qui demande des définitions d'images plus importantes. Et là, quand ça a été mis au point, les machines coûtaient encore cher au début, mais par contre, les possibilités étaient infinies. On les a immédiatement utilisées, surtout qu'en parallèle, il y a eu des systèmes de numérisation des films 35 mm pour les passer en numérique, de manière à les retravailler et pour ensuite les kinescoper, c'est-à-dire les remettre sur de la pellicule 35. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de ça, puisque toutes les projections se font par DCP, c'est-à-dire directement en numérique en salle. Ensuite, bon, pour l'image fixe, du coup, évidemment, il n'y a eu aucun souci, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile. Tu veux que je parle par exemple des illustrations qu'il y a dans...
Oui, par exemple, ouais. Lorsque tu travailles sur un travail, lorsque tu es sur un projet éditorial... T'as pas envie de retravailler, par exemple, sur des images en traditionnel, j'imagine.
Alors, de toute façon, clairement, pour Dark Vador versus Monsieur Spock, mon éditeur, que j'aime beaucoup, non mais c'est vrai en plus, nous avait donné 2 mois et demi pour écrire les textes et pour dessiner sans une illustration noir et blanc et la couverture. Alors les textes, on les a partagés entre Jana de Batz, qu'on a pris d'ailleurs plus que moi, et moi-même. Et puis ben, pour les illustrations, il faut être très clair, si j'avais dû les faire sur papier, c'était pas possible en 2 mois et demi de sortir, surtout qu'en plus j'étais pas à plein temps dessus, c'était pas possible de sortir aussi vite des illustrations qui sont faites à partir de dessins, de textures, de collages, de retravail. Et puis en plus, les repentirs sont beaucoup plus difficiles. Au moins là, on travaille en multicouche. On fabrique une nouvelle couche, un nouveau layer dès qu'on a un doute ou dès que l'on imagine que l'on va devoir le modifier ou le déplacer. Donc c'est beaucoup plus malléable. Dans les bons jours, j'arrivais à en faire 3 dans la journée, ce qui était quand même assez rapide. Quelquefois, il y en a qui étaient plus compliqués, mais ce qui est certain, c'est que sans numérique, ça aurait été vraiment plus long. Et puis, on s'affranchit aussi de toute une série de problèmes, j'irais dire, de contingences. C'est-à-dire que si on travaille, par exemple, sur le papier, il faut quand même de toute manière maintenant rendre un fichier numérique à l'éditeur. Donc ça signifie qu'il faut passer par le scan, bien étalonner le scan, recouper ce scan à la bonne taille, selon d'ailleurs si c'est une illustration qui va être dans la page ou si elle a fond perdu, donc avec les marges du massicot. Rien que ça prend du temps. Et puis bon, le scan, ça veut dire enlever les poussières, non seulement sur le scan, mais même après, parce qu'il y en a qui restent. Enfin, faut faire du clean, c'est l'horreur. Quoi.
Lorsque tu parles du scan, moi, ça me fait aussi penser que l'arrivée du numérique a aussi fait disparaître des métiers, hein, puisque effectivement, le fait, il y a des actions de l'imprimeur qui ont été réparties entre l'éditeur ou l'illustrateur ou le créateur éditorial. Est-ce que Gwen, par exemple, dans ton expérience concernant donc Professeur Cyclope, tu peux nous parler un petit peu de ton processus vis-à-vis du numérique, vis-à-vis de l'apport de tout ça, et puis aujourd'hui, ce support et toutes ces possibilités. C'est une ouverture qu'on ne pouvait pas déjà prévoir et disons qu'on ne pouvait pas prétendre avec d'autres techniques finalement.
En fait, nous, on était un certain nombre d'auteurs à se rendre compte que la bande dessinée, quand elle était sur ordinateur, c'était souvent de la bande dessinée numérisée et pas de la bande dessinée numérique. Et l'idée, c'était d'explorer des nouvelles voies de narration qui étaient propres au médium. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait d'une publication papier avec Olivier. Faire une illustration, la scanner, puis ensuite se dire, bon, le but, c'est qu'elle soit imprimée. Là, on s'est dit que pour aller plus loin, pour explorer des narrations proprement numériques liées à la bande dessinée, il fallait les concevoir en majorité pour une narration purement numérique, donc en s'écartant parfois un petit peu de la bande dessinée classique, en explorant des voies, en se trompant parfois, en allant par hasard dans une direction, puis il se trouve qu'elle était peut-être meilleure que ce qu'on imaginait au départ. Et donc en fait, ça a correspondu à un moment où il y avait une crispation aussi entre les auteurs et les éditeurs sur les contrats numériques, avec la création d'un syndicat, enfin d'un groupement d'auteurs de bande dessinée au sein du SNAC, voilà, que Denis connaît bien. Et on s'est dit qu'un groupe d'auteurs pouvait montrer comment on pouvait faire de la bande dessinée, essayer aussi de voir comment elle pouvait être diffusée autrement, quel modèle économique pouvait être lié à ça. Donc, Fabien Vellman, Cyril Pedrosa, Bruno, Hervé Tancrel et moi, comme groupe d'auteurs, et puis plein de personnes qui ont travaillé pour Professeur Cyclope, et puis tous les auteurs derrière, on a travaillé pendant 2 ans de publication avec notre coproducteur Arte, la chaîne télé, pour faire une revue mensuelle de bande dessinée numérique.
Tu peux nous montrer quelques images de ce travail ?
Voilà. Alors voilà quelques revues qu'on a faites ensemble. Je vais montrer, par exemple, voilà, on arrivait sur l'œil du cyclope, et ensuite sur la couverture. Il se trouve que l'auteur est dans la salle, le dessinateur, c'est Loïc Sécheresse. Coucou Loïc. Voilà. Il a fait Samurai Space Marines dans Professeur Cyclope, avec une narration, si jamais ça veut marcher, évidemment c'est toujours comme ça, une narration qu'on appelle plutôt turbomédia, c'est en fait un terme qui a été inventé, et même la narration par Balak, et il s'agit ni plus ni moins qu'un diaporama au départ. Et l'idée, c'est de jouer sur la persistance rétinienne. On est sur un plan fixe, comme ça, au départ. Il y a une bulle qui peut apparaître.
Ouais, les web-séries.
Voilà. Et puis après, Loïc a joué sur le fait de faire apparaître les bulles au fur et à mesure, sur un peu d'animation. Là, je vous montre quelque chose qui est un petit peu complet. Mais dans Professeur Cyclope, l'idée c'était de faire une revue avec des choses qui étaient seulement ergonomiques, faciles à lire sur tablette, parce qu'on visait principalement la lecture sur tablette, et puis ça pouvait aller jusqu'à des expérimentations plus fortes. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout attaqués à l'animation parce que ce n'était pas leur propos, et puis ils ne savaient pas faire, et puis ça ne les intéressait pas. Et puis finalement, simplement lire une bande dessinée sur écran, si elle est bien pensée, c'est déjà très bien, en fait. Plutôt que d'avoir une bande dessinée pensée pour une planche de bande dessinée imprimée et dans laquelle on soit obligé de naviguer alors que ça n'a pas du tout été prévu pour ça. Donc voilà, par exemple, pour Loïc.
Oui, là, on comprend parfaitement l'apport du numérique. Par exemple, si le professeur Cyclope avait été un travail sur papier, ou par exemple, même dans le type de travail que fait Johan, par exemple, dans son travail de dessinateur, est-ce que l'apport du numérique et puis le fait de redécouper, par exemple, la case et la narration comme ça, avec des petits, des effets qui interviennent, une narration avec un timing précis, est-ce que ça aurait pu être un complément ou une redite, je dirais, est-ce que ça aurait pu être... intéressant d'avoir aussi une version papier.
On a réfléchi beaucoup sur le fait d'être bimédia, en fait, de pouvoir faire du papier et du numérique. Et en fait, alors du coup, je vais revenir sur un exemple qui illustre ça. C'est Le Sourire de Rose de Sacha Gurg, qui a été en fait publié en papier chez Casterman, mais qui a d'abord été diffusé dans Professeur Cyclope, sous une forme de turbomédia. Alors attention, des choses un petit peu qui font mal. Et ce qui s'est passé, c'est que Sacha Gurg a retravaillé intégralement sa narration pour tout redécouper pour la version papier, parce que le rythme n'est pas du tout le même. Il y a des choses qui sont très diluées, en fait, là, par exemple, le scalpel qui passe comme ça, là je le remets en arrière, mais le scalpel qui passe comme ça, dans une bande dessinée, ça n'a pas forcément d'intérêt, en fait. Donc, dans la narration numérique, on va se dire que ce moment-là, il est important, parce qu'on peut insister dessus, mais dans la bande dessinée, l'auteur, en l'adaptant, va juger que c'est autre chose qui est important pour une histoire de rythme. Donc, finalement... il faut une adaptation. Et là, ça se passait dans l'autre sens cette fois-ci. C'était d'abord la diffusion numérique qui allait vers le papier et pas l'inverse. Et elle était intégrée, elle était prise en charge par l'auteur lui-même. Contrairement à ce qui se passe habituellement, on a une planche de bande dessinée classique et puis après on se dit, mince, comment on la met sur un écran qui n'a pas la bonne taille, qui n'est pas fait pour ça.
Oui, l'arrivée du numérique... permet et oblige au créateur d'anticiper ce qui pourrait être fait et développé ensuite autour de son propre travail, en fait.
S'il le désire. Alors, tout le monde n'a pas cette appétence-là. Et certains, s'ils sont précipités, comme une terrain incognita, se dire bah on est des auteurs, on s'est créé, on s'est raconté des histoires. La bande dessinée c'est fait de contraintes. C'est mixte déjà. Il y a une manière de raconter qui mêle le texte, l'image, une surface, un espace sur lequel exercer sa narration, qui va être perçu différemment après par le lecteur. Là, on a d'autres moyens, d'autres outils pour raconter des histoires avec du texte et du dessin. Ben, c'est difficile que ce soit un éditeur qui fasse ça finalement. Mais nous, on voulait donner les moyens aux auteurs de pouvoir expérimenter ça parce que ça ne venait pas de la part des éditeurs et on entendait quand ça sera mûr, on ira. Donc oui, comment faire mûrir quelque chose si personne n'y va ? Du coup, il fallait des moyens de production. Donc les auteurs de bande dessinée que nous étions, on s'est transformés en chef d'entreprise pour réussir à monter un modèle économique qui permette de faire exister une revue mensuelle de bande dessinée numérique.
Oui, c'était le même frein de la part des éditeurs sur les contrats ou sur la diffusion numérique, en fait. Ça c'est pas venu immédiatement, il a fallu...
Non, c'est sûr. Et puis, de toute façon, on s'est un peu crispé là-dessus, mais on est loin d'avoir des modèles économiques en numérique. C'était aussi une histoire de principe. Oui, bon, Denis, t'as peut-être envie de dire un mot là-dessus.
Non, c'est juste pour dire qu'en plus, on a eu des négociations très longues entre les syndicats d'auteurs... et les syndicats d'éditeurs sur le numérique qui ont accouché récemment d'un changement de la loi, d'un aménagement, mais c'est vrai qu'il n'y a rien. On est en train de se battre pour des centimes là pour l'instant, puisque de fait, le marché numérique ne prend pas vraiment en France pour l'instant, alors particulièrement en bande dessinée où c'est vraiment anecdotique. Donc c'est très étrange, on prépare un avenir en le crispant, alors qu'en effet, c'est beaucoup plus intéressant de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire de le défricher à l'aventure en... Bon, quitte à y laisser peut-être parfois du temps et de l'argent, j'imagine.
C'est
mais...
clair. C'est clair. C'est pour ça que pour l'instant, bah, le professeur Cyclope, on l'a arrêté parce que il y a un moment où tout le monde voulait, de façon d'ailleurs non concertée, mais sans doute liée à la crispation qu'il y a eu sur le numérique, il y a beaucoup d'auteurs qui ont envie de faire des revues numériques. Puis on s'est finalement retrouvé un petit peu seul, un petit peu isolé. Ce qui fait que c'est difficile. Nous, on a présenté quelque chose avec ce qu'on aimait en bande dessinée, ce qu'on avait envie de proposer. Ça aurait été mieux qu'il y ait l'équivalent d'un Tintin, un Spirou, un Métal Hurlant, un Fluide Glacial, et que ça crée des usages, des envies, et puis que les gens aillent sur leur tablette pour lire de la bande dessinée. Là, finalement, on ne pouvait pas, avec Professeur Cyclope, représenter toute la bande dessinée numérique, parce qu'on faisait une revue avec une direction artistique, avec nos goûts, avec nos envies, et on n'avait pas du tout la prétention de représenter tout ce que devait faire la bande dessinée numérique, loin de là.
Alors, tu as prononcé le nom de Spirou. Notre ami Johan, donc l'apport du numérique par rapport à ton propre travail, et puis justement Gwen parle avec Denis de cet aspect de la diffusion maintenant par rapport aux médias numériques. Dans ta création, comment ça s'est passé? Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe sur la diffusion en numérique pour Spirou et quel avenir par exemple?
Toutes ces questions d'un seul coup.
Bon, eh bien, je trouve que c'est très judicieux de m'avoir invité, Gilles. Car je suis un petit peu l'exception dans ce panel d'auteurs talentueux et d'avant-garde, puisque en fait, en ce qui me concerne, je ne travaille pas du tout en numérique. Je travaille de manière traditionnelle, c'est-à-dire encore avec du papier, des crayons, des règles, des pinceaux, de l'encre de Chine, des peintures acryliques et toutes ces sortes de choses qui tâchent, qui se renversent sur le bureau de temps en temps. Et puis que si on ne fait pas attention, on fait des tâches dessus. Et alors, donc quand on doit scanner, on doit nettoyer les pages et tout ça. Bon. Donc le numérique, en ce qui me concerne personnellement, n'a pas une grande place véritablement dans le travail. Il intervient principalement sur des aspects en amont et en aval, c'est-à-dire ça va être par exemple la diffusion par rapport à mes éditeurs, j'envoie des pages par internet, j'envoie mes factures aussi pour me faire payer accessoirement, et puis surtout en fait la mise en couleur des pages se fait maintenant de manière numérique. Il se trouve que moi, j'en fais relativement peu, sauf cet exemple-là. Là, vous voyez tout de suite je suis vraiment très très fort en mise en couleur sur ordinateur. C'est une voilà. Donc la mise en couleur se fait sur un logiciel. Ça permet d'aller très vite. Là, notamment quand on doit faire une couverture pour un journal comme celui du journal de Spirou, c'est souvent des trucs qu'on demande à la dernière minute. Donc il faut, j'ai pas le temps de faire le dessin, d'envoyer le dessin à ma coloriste qui s'appelle Laurence Croix, qui elle fait les mises en couleur des albums. Donc là, c'est moi qui fais la mise en couleur moi-même. Ça va plus vite et l'éditeur est content de recevoir ça dans les temps. Donc voilà, maintenant on peut dire que la mise en couleur d'une bande dessinée se fait à 95% de manière numérique sur un ordinateur, un logiciel dédié, et très peu de coloristes travaillent encore de manière traditionnelle. On va dire que jusqu'à avant la démocratisation de l'outil numérique, on scannait les pages, on les imprimait sur une feuille de papier aquarelle, donc qui pouvait recevoir de la peinture ou de l'aquarelle. Donc le trait était reproduit dans une couleur inactylique, c'était souvent une sorte de gris ou une sorte de bleu. Ensuite, par-dessus venait superposer un calque imprimé en noir qui permettait aux coloristes de pouvoir voir si les couleurs s'ajustaient bien en dessous. Et tout cela était envoyé à l'éditeur. L'éditeur l'envoyait à un photograveur qui était un professionnel, qui avait des grosses machines qui coûtaient des millions et qui facturait donc évidemment à l'éditeur le scannage, la reproduction de ces couleurs, qui faisait la séparation aussi des couches sur magenta, jaune et noir. Et etc., etc. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement, tout à l'heure on en parlait, un métier qui a disparu, puisque les photograveurs maintenant, c'est les auteurs qui font ce travail-là sans être payés plus cher, hein. Bien sûr.
Et lorsque tu dis donc que tu travailles encore donc en traditionnel, que ce soit l'encre, la gomme et autres joyeusetés,
ouais.
Tu t'arraches pas les cheveux à un moment donné s'il y a une erreur et que tu es obligé de jeter la page ou de la redécouper comme au bon vieux temps?
Pas du tout. Je ne m'attarrache pas du tout les cheveux. D'ailleurs, mon coiffeur est vraiment ravi.
Si je peux me permettre.
Non, moi, mais bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi, j'ai pas souhaité passer au numérique. La première, c'est que déjà, j'expérimente, quand je fais de la mise en couleur, je travaille surtout à la peinture, à l'acrylique. J'aime le rapport à la matière, j'ai un côté un peu sensuel à ça. Et j'arrive relativement bien à me dépatouiller avec des peintures, avec les couleurs, avec ma gamme, qui est large, mais quand même limitée, on va dire. Alors que, quand j'ai essayé, bien entendu, sur mon petit ordinateur, de dire « ouais, je vais faire une super illustration, je vais faire une super mise en couleur à l'ordinateur, sur Photoshop, etc. » machin. Et le problème, c'est que l'ordinateur propose de telles possibilités, une telle diversité d'outils, que quelque part, moi, j'arrive pas à me restreindre et à me dire, bon, attention, je vais limiter ma palette. Parce qu'on a un peu tenté à essayer de mettre un peu tous les effets, quoi. Là, je vais mettre de l'aéro, là, je vais mettre un truc qui fait un peu aquarelle, là, je vais mettre telle couleur, telle couleur, telle couleur. Ah, bah, et au final, ça donne comme une sorte de pizza un peu moche. Et forcé de reconnaître que je suis vraiment pas bon à mettre de la couleur moi-même sur ordinateur ou faire une sorte de couleur directe. Talent que j'envie à certaines personnes, notamment comme à Denis, je trouve le travail formidable sur son travail, enfin sur Universal War One notamment, et puis d'autres choses que tu as fait où on a vraiment une grain peinture dans le travail. Bon voilà, donc ça c'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est parce que j'ai fait une école d'art assez traditionnelle. Je suis assez attaché à l'idée qu'on puisse exposer des planches originales, de voir la cuisine, de voir comment c'est fait, de voir l'encre qui brille sur une page, et puis là tout d'un coup il y a un peu de correcteur, on voit le repentir du dessinateur, on arrive un peu à pénétrer les méandres de son cerveau au moment où il a décidé de prendre un pinceau là et là plutôt mettre un coup de stylo bic à tel endroit, etc. Enfin voilà, ça c'est une espèce de rapport visuel que je trouve très riche, que je retrouve pas dans le numérique. Et enfin la dernière raison, c'est que ben voilà, chez moi j'ai des planches originales qui sont exposables, qui sont aussi pour certaines convoitées par de vils collectionneurs. Et évidemment, tout cela attise mon côté matériel et mercantile, et ce qui fait aussi que plus tard, c'est un patrimoine que je vais léguer à mes enfants. Le jour où, je ne sais pas, moi, je pourrais plus dessiner, ou je serais devenu ringard et personne ne voudra de mes trucs, ben voilà, je pourrais vendre toujours mes originaux, ou les confier à ma descendance, qui auront peut-être là une petite manière de subsister.
Ou les vendre avant d'être ringard.
Voilà.
Trouver le bon moment.
Alors, je ne sais pas si Denis est d'accord avec toi et ta vision donc, de l'absence de matière dans Photoshop. Je pense qu'il va pouvoir nous en parler.
Je n'ai pas dit qu'il y avait une absence de matière. Hein. Mais, je parlais du trait. Non,
mais du contact à la matière.
Il mais, disait qu'il aimait les pizzas, surtout.
Voilà. On n'a pas de planche de Trois Christ, par exemple, que vous avez réalisée avec Valérie et Denis. Si tu peux en mettre, ce serait génial, parce qu'effectivement, sur Trois Christ, tu as un travail incroyable au niveau de la matière. Mais effectivement, je note quand même que Johan nous a expliqué qu'avec une panne de disque dur ou d'électricité un de ces jours, tu perdrais tout le patrimoine à transmettre à tes enfants.
Alors, non, parce que j'ai quand même des sauvegardes je fais partie des gens qui ont des sauvegardes automatiques dans des data centers éloignés. Il y en a une partie qui est aux États-Unis en permanence, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait un tremblement de terre généralisé et une guerre nucléaire pour qu'il n'y ait plus rien. Et je pense qu'en cas de guerre nucléaire, tes originaux seront en mauvais état aussi.
Cela dit, le problème de la conservation se pose toujours parce que ces originaux numériques, pourra-t-on encore les lire dans 100 ans, dans 200 ans, quand les formats auront changé ?
Oui, c'est des formats informatiques très simples. Donc là, on voit voilà, le genre de travail qui en est fait très peint que j'ai pu faire sur Trois Christ. Alors en fait, la matière, c'est pas un problème si on décide de travailler des outils sales. Il s'avère que dans la réalité, les outils sont sales. Quand on sort la peinture du tube, elle est propre, mais dès qu'on mélange un petit peu deux, trois couleurs de peinture, on obtient en général un sale marron. Naturellement, quand on peint et qu'on apprend à peindre, on passe son temps à se battre contre cette matière sale, ces pinceaux qui se transforment en balai à chiottes en deux secondes. Enfin, vous avez tous fait de la peinture à l'école, vous vous souvenez de l'état du truc marronasse que vous aviez à la fin avec des... Et puis, comme c'était très beau, vous terminiez en tapant tellement vous étiez énervé. C'est ça, la création. Et c'est vrai que Johan ou d'autres, moi, quand j'étais plus jeune, on se battait contre cette chimie organique quasiment pour obtenir de l'ordre, sortir quelque chose de cohérent, tout ça. L'ordinateur, c'est exactement l'inverse. C'est que naturellement, ça sort de l'ordre, des mathématiques, de la pureté, le ton parfait. Et c'est profondément chiant, en effet. Et donc, on doit, au contraire, aller vers le bordel. Donc, c'est le chemin inverse. Et c'est très intéressant en ça. Moi, quand je travaillais en informatique, bah, par exemple, ça, c'était tout bête, mais je peignais avec un espèce de pinceau dégueulasse. Et on voit les traces de ce... c'est pas très défini, mais je pense que vous voyez... Ouais, non, c'est un peu foutard, quand même. Mais on voit que mon pinceau n'était pas très propre. Donc, tous les bords sont tremblants. Et ça génère naturellement, en fait, un rendu de peinture, puisque j'ai travaillé avec un balai à chiottes, en gros, sur Photoshop. Voilà, donc il faut travailler avec des outils sales et c'est la chose qu'on doit apprendre avec l'ordinateur, c'est à en permanence lui faire du bordel. Donc ça a vraiment été ma démarche. Moi je fais partie de la toute première génération qui a basculé dans la BD. Apparemment il y a un concours entre Chris Lanquet et moi pour savoir quel est le premier qui a basculé en intégrale et surtout qui a basculé en intégrale, non pas sur ce type de rendu, parce que quelque part l'ordinateur se prête bien à ça, mais sur des rendus au trait, à l'ancrage. Là j'ai essayé de vous montrer, mais c'est le meilleur moyen de montrer. À l'époque, on avait seulement des tablettes graphiques comme ça. Oups là, j'ai failli emmener un ordinateur. Maintenant, on a des tablettes graphiques comme ça avec l'écran dessus. Donc évidemment, ça devient relativement facile de dessiner sur son écran, même si ce n'est pas si simple que ça. Alors que là, à l'époque, bah, il a fallu apprendre un truc un peu idiot, que vous avez tous appris avec une souris, mais on devait l'apprendre puissance 10. C'est-à-dire, on devait apprendre à dessiner, à faire des jolis traits purs, en regardant un écran et non pas sa main. Parce que moi, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à regarder vraiment le bout de mon crayon. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, ben, je regardais le bout de mon crayon. Et je vous jure que le passage du « je regarde le bout du crayon » à « je regarde l'écran » de manière différenciée, c'était un vrai cauchemar. Et je raconte souvent l'anecdote qu'on s'est retrouvé je pense, vers 96 ou 97 avec Jean Giraud, Moebius, alias Dieu. On s'est retrouvé, il m'a attrapé par l'épaule, faut qu'on parle, on a fait un long repas. Il savait que je m'intéressais beaucoup aux questions du passage au numérique et que je travaillais sur des tablettes depuis le tout début des années 90, les toutes premières. Et il n'y arrivait pas, quoi.
Il n'y arrivait pas. Il sentait qu'un mauvais trait, c'était moche. Il se demandait si c'était la technologie. Je lui ai dit, écoute, non, je pense pas. Je pense qu'on est à deux doigts du problème de cerveau, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas câblé pour ça, quoi. Et à la fin de ce repas, on était tombé d'accord sur le fait que jamais, au grand jamais, on ne dessinerait sur ordinateur. Ce qui prouve qu'on peut mettre un Jedi et un Padawan et avoir des conneries, quoi. Moi, j'ai basculé par hasard. C'est-à-dire que, après le 11 septembre, j'ai plus réussi à dessiner pendant un temps et j'ai dépanné des copains. Et je faisais des mises en couleur pour des copains sur des albums. Comme ça m'évitait de m'occuper de mon propre travail, de mes propres angoisses. Et il y avait un copain qui n'avait pas terminé complètement le bout des cases. Or, en bande dessinée, quand on imprime toujours un peu plus grand, puis on recoupe les pages à la fin. C'est pour ça que les bords des bouquins sont très bien calés. Vous voyez, parce que si autrement on s'amusait à replier les choses, on aurait un joli accordéon. Et il manquait un petit peu le dessin qu'on coupe, comme ça. Et donc, moi, bah, je commençais à me dire quel idiot, et puis à compléter. Puis à un moment, je me suis aperçu que depuis 2-3 jours, j'étais en train d'imiter le style d'un copain, au trait, sans me poser aucune question. Et en fait, bah, pendant tout ce temps-là, et il s'était passé 3-4 ans depuis la discussion avec Jean Giraud, à force de faire d'illustrations et genre de choses sur ordinateur, le cerveau avait câblé enfin. Et je pouvais arriver enfin à la maîtrise de ce trait, et PF1, et puis avec ça, bah, essayer de faire une tête, pas à Toto justement, mais une vraie tête. Et ça, c'est on est la génération perdue, parce qu'en fait, 5-6 ans après, sont arrivées les tablettes écrans qui rendent maintenant ce travail très facile, parce qu'on regarde à nouveau le bout de son stylo. On n'a plus cette différenciation, et c'est vrai qu'on retrouve très vite des réflexes qu'on a sur papier. Donc voilà, je vous ai raconté l'histoire d'un imbécile qui a passé 12 ans à dompter une technologie au lieu d'attendre 50 plus. Voilà.
Alors ça, c'est ton passage au numérique, mais par exemple, il y a d'autres outils aussi, encore un petit peu plus complexes, mais qui peuvent venir compléter ton travail, je dirais, de dessinateur. Par exemple, des logiciels de 3D, où comme avant, par exemple, on prenait en photo une maquette ou autre, pour pouvoir la redessiner avec les lumières, les ombres et lumières. Est-ce que tu as, par exemple, recours à des modèles 3D de temps en temps pour t'aider ?
Jamais. Alors, jamais, parce que c'est tellement chiant, la 3D. La bande dessinée, c'est un art de l'esbroufe. C'est un art qui a plus à voir avec le théâtre d'ombre qu'avec le cinéma. On est là pour mentir à vue, pour donner des sentiments forts. On n'est pas là pour retranscrire la réalité. Moi, quand je fais Universal War One, j'essaie de donner un sentiment de réalisme. Jamais je n'essaye d'être réaliste. Mes vaisseaux, ils sont même pas compatibles entre la face avant et la face arrière. Justement, les gens qui ont voulu les modéliser en 3D, par exemple, pour les passer en soufflerie, il y avait des étudiants qui avaient voulu faire ça. Je les avais prévenus, vous allez voir, c'est un cauchemar, vous ne pourrez pas faire caler les faces avant et les faces arrière. Et ils m'ont dit, c'est pas possible, on voit bien que ça marche. Et puis après, ils ont passé 12 jours à réussir à trouver vaguement un calage. La 3D, c'est quelque chose qui sèche la réalité, exactement comme on disait sur Photoshop, qui donne des maths tout de suite. Moi, je suis assez opposé à ça en dessin, parce qu'au début, on pense que ça simplifie, mais en fait, ça nous contraint. Je suis pour... comme quoi, on finit par rejoindre cette liberté que tu souhaites garder sur papier, par exemple, ou cette liberté que tu souhaites chercher en explorant le numérique. C'est ça qui est important. C'est absolument que ce soit sur papier ou sur numérique, que les contraintes soient des contraintes créatives, jamais des contraintes de simplification du travail. Parce qu'à chaque fois que la machine travaille à notre place... Eh bien, c'est l'art qui est remplacé par de la mécanique. À chaque fois que la machine fait le travail à notre place, d'autres peuvent faire exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est l'identité de l'artiste qui disparaît. La machine, on la dompte, on la maîtrise, c'est notre esclave, et surtout pas l'inverse.
Olivier ?
Oui, j'ai remarqué, parce que j'avais pas mal travaillé dans des studios 3D, justement, sauf que j'étais à la post-production, donc moi, j'étais vraiment sur du 2D avec une optique picturale. On avait déjà des Wacom, donc des tablettes comme celle-là, mais en plus gros, plus lourd et avec le fil à ce moment-là. Dès fin des années 80. Ce qui est certain, c'est que les graphistes qui travaillaient vraiment en 3D sur les logiciels de l'époque, notamment ceux de Thomson, il n'y avait pas encore Maya, avait une approche qui était, alors d'abord assez mathématique, mais surtout très très analytique, pour une bonne raison, c'est qu'il y a moins de possibilités d'improvisation, alors que dès qu'on est sur du 2D, finalement on retrouve très facilement une approche qui est picturale et qui correspond à la formation initiale de Beaux-Arts ou d'école d'art que l'on a eue. On est obligé de s'adapter parce que, en plus, les logiciels ne permettent pas forcément de tout donner. Donc, on fabrique ses brosses, on bidouille. Mais justement, parce qu'on bidouille, on s'amuse de la même façon qu'on pourrait s'amuser avec des outils classiques. Mais ce n'est pas la même culture que la 3D. Ça, c'est très clair. Je ne dis pas que la 3D, c'est pas beau et que c'est mauvais et que c'est tout froid. Hein. C'est juste qu'on ne pense pas de la même façon.
Et par rapport à l'apport de la 3D, même si on part sur, par exemple, une case en traditionnel, par exemple, je pense à Johan, par exemple, quel pourrait être l'avenir, en fait, du numérique sur un support qui est quand même encore un petit peu, je dirais, qui a encore un petit peu les atours de l'ère des dinosaures, quoi, en fait, hein, puisque le numérique arrive, mais je pense pas qu'on puisse se projeter à 10 ans, en fait, savoir quel va être l'apport du numérique par rapport à la production, par exemple, en bande dessinée. Même si, pour l'instant, tu t'arc-boutes sur l'encre et les pinceaux.
Bon, je ne m'arc-boute pas par obstination. Je veux dire, c'est juste simplement que moi, c'est mon sentiment, ma pratique. Je suis chez moi, j'ai mes repères là. J'ai essayé de faire des choses numériques. Je m'aperçois que je ne suis pas à l'aise avec cet outil. C'est un outil. Il y a des outils avec lesquels on est à l'aise, et on n'est pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec la peinture à l'huile, par exemple. Mais avec l'acrylique, oui. Voilà. Bon, le numérique, je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien de travailler en numérique. Je ne suis pas du tout sur un discours comme ça. Hein. Je vois des trucs merveilleux qui sont faits entièrement en numérique, que je suis complètement incapable de faire, que j'admire beaucoup. Et je ne mets absolument pas d'échelle de valeur là-dessus. Simplement, j'explique moi mon travail et ma manière de faire. Maintenant, l'avenir du numérique pour la suite... Je trouve intéressant la démarche de professeur Cyclope, et je pense qu'on va quand même finalement arriver à un moment donné à lire, à avoir des récits sous cette nouvelle forme qui est une forme qui demande à être créée dont la forme a été un petit peu dégrossie, défrichée par le travail de professeur Cyclope et certainement aussi d'autres éditeurs, pas forcément que en France d'ailleurs. Hein. Mais c'est pour le coup la création d'un autre langage. La bande dessinée a un langage, la bande dessinée livre, papier, etc., a un langage véritablement bien codé puisque... On a souvent parlé des différences entre la bande dessinée et le cinéma, par exemple, ou des points de passage qu'il y a entre les deux. Le cinéma, c'est du temps qui défile, c'est de la temporalité. La bande dessinée, c'est juste de l'espace. En tout cas, un album papier, c'est de l'espace, c'est de la deux dimensions. Et là, avec l'expérience, par exemple, de professeur Cyclope, on arrive à quelque chose qui est un mix entre les deux. Je veux dire, à une forme... bâtarde, mais pas dans le sens péjoratif du terme, on va dire, une forme métissée, on va dire, entre le qui n'existait pas encore avant, où on n'est pas dans le dessin animé, on n'est pas dans la bande dessinée papier, on est à quelque chose entre les deux, où la bande dessinée est tout d'un coup investie de temporalité, puisque les images apparaissent au rythme que va lui donner le lecteur ou que a préparé l'auteur de son côté, et pourquoi pas ajouter du son aussi à un moment donné. Donc on arrive à une forme enrichie de narration, mais qui n'est plus véritablement de la bande dessinée au sens littéral du terme, c'est-à-dire des bandes, des dessins dans des bandes qui se suivent comme ça, mais peut-être une forme plus verticale.
Oui, alors là, tu parles effectivement précisément des exemples que j'ai montrés tout à l'heure de Turbomédia, et c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres expériences de scrolling verticaux ou horizontaux ou simplement d'avoir des planches un peu plus classiques, et effectivement on a aussi mis du son quelquefois, et là pareil, l'apparition du son, quand est-ce qu'on en met, quand est-ce qu'on en met pas, ça a eu beaucoup de débats parce que finalement on remplace pas l'onomatopée par du son systématiquement, sinon ça serait un petit peu bizarre, et puis parfois il y a eu des expériences. On nous a proposé des choses, il y avait à la fois l'onomatopée écrite et puis parfois un son, et là on disait ben, il faut voir à quel moment quelle est la logique intrinsèque de cette proposition, et il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien en fait, et donc quand on est dans une expérimentation, on a intérêt à beaucoup réfléchir en amont sur ce qui peut fonctionner, et c'est comme si c'était impossible de ne pas avoir de raté. Alors nous, notre mission à la rédaction, c'était de, d'essayer de réduire le plus possible les ratés. Et puis parfois, il y a des très belles réussites.
Et lorsque tu parles du professeur Cyclope, de la manière dont en parle Johan, j'ai l'impression qu'on parle presque d'une bande dessinée augmentée, finalement, avec cet ajout de narration, cet ajout de ce temps qui n'existe pas dans le livre papier. L'apport du numérique par rapport à la bande dessinée pourrait déboucher sur quoi? Est-ce qu'on pourrait se promener en 3D dans les rues de Spirou? Est-ce que, mais disons dans le contenu du livre, hein, je ne parle pas d'une animation, je ne parle pas d'un dessin animé, je ne parle pas de un pop-up holographique, à savoir. Est-ce que
après techniquement tout est envisageable? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est intéressant? Voilà, c'est la seule question. Je ne pense pas qu'on puisse décréter par avance qu'une voix est inintéressante. Il faut l'expérimenter,
non,
pour voir si ça fonctionne. Après, est-ce que ça correspond à des désirs pour un auteur de bande dessinée ou pour un lecteur de bande dessinée? Ça dépend. On peut créer aussi de nouvelles voix qui seront effectivement ni la bande dessinée ni l'animation. Et c'est déjà le cas dans les expérimentations qui ont commencé. Mais après, effectivement, on est dans un autre médium qui est à inventer. Nous, on restait quand même parfois dans un cadre qui était celui de la bande dessinée, même s'il y avait des ajouts de son parfois, où le turbomédia, c'est à la limite, mais pour moi, ça reste quand même de la bande dessinée, mais c'est un pas vers autre chose. Et si on va au-delà du turbomédia, on bascule dans une autre
audiovisuel.
Oui, voilà. En fait, parfois, on avait des propositions d'animation bas de gamme, en fait, d'une certaine manière, un peu cheap. Et donc là, ça n'avait pas trop d'intérêt.
Faut pas oublier que quel que soit le média, que ce soit qu'utilise le numérique, la palette, l'ordinateur, le livre ou d'autres formes, même le cinéma, on en est juste simplement là pour raconter des histoires, pour créer un univers et le communiquer à un spectateur, un lecteur, quelqu'un qui va être devant nous. Donc après, qu'il y ait du son, pas du son, que ça bouge, que ça bouge pas, peu importe. Le truc, c'est qu'il faut faciliter l'accès au spectateur ou au lecteur vers ce qu'on veut lui dire, vers le propos. Ce qui est le plus important, c'est évidemment le contenu du propos. Et il faudrait pas non plus qu'à un moment donné, par exemple, si on avait tout d'un coup des pop-up en 3D qui sortent du bouquin, ça vienne détourner le lecteur de ce qu'est la véritable raison du livre ou de truc, c'est de raconter une histoire simplement et de le prendre par la main et de l'emmener dans un univers.
Il ne faut jamais oublier que les formes d'art nouvelles se créent un peu, se créent un peu tout seul en fait. Par exemple, pour prendre le dessin animé japonais des années 70, hyper économique, ça a quand même donné finalement, il y a une forme d'art dessin animé japonais maintenant qui est très claire. Oui, souvent la bouche seule bouge et pas le menton, c'est une économie. On n'est même pas loin parfois de turbomédia, c'est-à-dire on va avoir des images fixes, enchaînées, bouger, quelques effets graphiques, une bouche qui bouge, un peu de son, etc. Donc en fait, et la chose à un moment s'est figée et est devenue très autonome et on le reconnaît comme tel et on le met sous le grand titre de l'animation, mais on pourrait presque parler d'un art particulier. Je pense que la bande dessinée va dans les prochaines années accoucher de deux, trois formes comme ça, un peu plus hybrides, qui vont sans doute devenir identitaires, c'est-à-dire que les gens se regrouperont autour de ces nouvelles formes et on aura moins de variété dans ces essais-là et on aura finalement des colonnes vertébrales qui vont se dessiner et on appellera sans doute ça d'un nouveau nom à ce moment-là de manière claire. Mais voilà, il faut qu'on essaye, il faut qu'on tente.
Il y a des standards qui peuvent s'imposer au bout d'un moment parce qu'il y a aussi une connivence et puis des usages qui sont faits entre les auteurs et les lecteurs. Et c'est aussi une industrie culturelle. On voit que les contraintes la construisent, comme pour la bande dessinée, pourquoi c'est devenu majoritairement des albums de 48 pages. Voilà, c'est parce que c'était des contraintes techniques d'impression et de prix de vente publique par rapport au coût de fabrication de l'album et ce qu'on pouvait payer l'auteur. Donc un lecteur n'imagine pas forcément ça, mais ça crée des standards. Les contraintes économiques et techniques créent des standards. Donc là, on a tout à faire, puisque même la diffusion, elle est à construire, le modèle économique est à construire, la narration est à construire. Donc quand je parlais de terra incognita, Là, elle est gigantesque. Oui,
moi, j'ai encore le sentiment qu'on est entre un vieux schéma avec lequel on pense l'avenir de cet outil du numérique et un outil qui a un tel développement qui, bon, ne serait-ce que sur la diffusion.
Enfin, et par exemple, Professeur Cyclope a été pensé massivement pour la tablette. On pensait tous que ça allait être le modèle dominant de la diffusion. On voit qu'avec la tablette, le grand téléphone est finalement en train de l'emporter. Donc on a déjà même pas encore cette stabilité sur les supports de diffusion, quoi. C'est vraiment très très tôt là. On est au tout début. Est-ce que on pensait tous que la Google Glass, par exemple, la lunette allait faire un succès, ça a été le bide absolu et Interstellar et Google arrête, quoi. Donc en fait, là aujourd'hui, c'est comme si on était au tout début de l'imprimerie. Est-ce que finalement on va relier ça en peau de chameau? Est-ce qu'on va imprimer ça avec du bois ou du plomb? On en est à cette étape-là. Donc, moi, j'avais trouvé génial que vous essayiez, mais à l'époque, je m'étais dit, ils sont fous, quoi.
Mais non, mais en fait, on avait quand même pris des bandes dessinées qui étaient lisibles sur différents formats. On voulait que ce soit. Mais effectivement, le smartphone, on l'a pas beaucoup investi. Mais là aussi pour des raisons, pour des contraintes économiques aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, les écrans étaient tout petits en plus, on ne s'est pas attendu à ce que...
Oui, oui, et puis aussi parce que travailler avec plusieurs développeurs pour réussir à être sur tous les supports, on l'a fait sur tous les navigateurs possibles, etc. C'était un casse-tête incroyable, en fait.
Alors, juste une petite... parce qu'on est proche de la fin de cette... de cette heure passée ensemble où on a un petit peu survolé cette histoire du numérique et qu'est-ce que tout vers quoi tout cela nous amène. J'imagine que dans la salle, il y a peut-être des questions même liées au travail qu'est en train de faire Denis. Moi, j'aimerais bien savoir si ton personnage va finir par être moins rouge ou pas. On n'a pas tellement entendu Valérie sur l'apport du numérique dans son travail. J'imagine que quand tu as commencé tes premiers, tes premiers scénarii, tes histoires et autres, c'était peut-être certainement sur un autre support. Aujourd'hui, le fait, par exemple, quand vous travaillez ensemble avec Denis, moi j'aurais une petite question, le fait que ce soit numérique, hein, le travail de Denis, est-ce que tu aurais des fois tendance à interagir avec lui, même sur le dessin, sachant que effectivement là, c'est pas gênant parce qu'il n'aura pas besoin de jeter son shoulder hammer la page complète, lui suggérer une modification parce que c'est plus facile, c'est du numérique.
Tout à fait. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus exigeante avec les dessinateurs qui travaillaient en numérique qu'avec ceux qui travaillaient en traditionnel. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de retoucher une planche papier, et c'est beaucoup plus limité aussi. On retouche une fois, deux fois, on gratte une troisième fois, et la quatrième fois, on fait un trou dans la planche, il faut découper au cutter, refaire la case entièrement, enfin tout ça est très long, très fastidieux, et on finit par avoir une planche qui, à force de rajouter du blanco et de découper des choses, finit par ressembler à des montagnes russes, plus qu'à autre chose. Alors qu'effectivement, en numérique, les repentirs sont beaucoup plus faciles. On peut facilement bouger une oreille si on pense qu'elle est mal placée sur un personnage. On peut, quand on voit un ciel bleu, se dire, bah tiens, finalement, cette scène se déroulerait le soir avec un ciel rouge, elle aurait beaucoup plus d'ambiance. C'est très facile de tester. D'autant plus, effectivement, qu'avec les calques, on peut garder l'ancien état de la planche et y revenir si, finalement, la première idée était la meilleure.
C'est chiant avec les dessinateurs, en fait.
Oui, pas seulement avec eux, mais aussi avec eux. Mais je pense que ça va plus. L'apport du numérique va un peu plus loin, parce que Denis parlait de trois Christs tout à l'heure. Je ne sais pas si j'aurais pensé trois Christs en dehors du numérique. Alors pour vous expliquer rapidement, trois Christs, c'est un gros one shot de trois histoires qui racontent l'apparition du Saint-Suaire. Alors dans la première histoire, le Saint-Suaire est une vraie relique chrétienne. Le Christ est mort et ressuscité dans le Saint-Suaire, et le Saint-Suaire est une vraie relique. Dans la seconde histoire, le Saint-Suaire est un faux médiéval, c'est-à-dire que ce sont des nobliaux de province qui, pour ramener de l'argent dans leur église, se sont dit que une relique du Christ, ce serait sympa, ça attirerait les gens. Et dans la troisième histoire, c'est une histoire assez absurde à la Da Vinci Code, avec, il n'y a pas des extraterrestres, mais il y a des pierres radioactives, des zombies, des tortures, des crucifixions, tout ça. Et finalement, la seule conclusion, c'est que Dieu est radioactif, en fait. Et donc, il y a trois histoires comme ça, mais ces trois histoires ont la particularité de se dérouler en même temps, au même endroit, avec les mêmes personnages, et parlent finalement du même objet. Et donc, ce sont trois histoires qui sont réalisées avec les mêmes cases et les mêmes dialogues. Et c'est évident que s'il avait fallu, pour un dessinateur qui travaille en traditionnel, redessiner trois fois chaque case Et pour un lettreur qui travaillerait, enfin, qui travaillerait en calligraphie à la main.
Pas exactement les mêmes
cases. Exactement, légèrement retouchées.
C'est-à-dire parfois c'est le matin, d'autres fois c'est le soir. Parfois c'est la même pose, mais c'est pas le même personnage.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait un retravail sur les cases qui était fait.
Enfin, il y a tout un jeu sur la bande dessinée justement comme ça. Et évidemment en traditionnel, ça aurait été très long et très fastidieux pour le dessinateur. Je suis pas sûre que j'aurais trouvé quelqu'un prêt à se taper ça. Alors qu'au contraire, évidemment, avec l'outil numérique, c'est très facile de réutiliser une case en la modifiant légèrement.
Et par rapport à nos autres intervenants, cette histoire, enfin, cette idée du repentir sans cesse, en fait, c'est quelque chose que vous ressentez dans le numérique et que vous ressentiez moins dans le traditionnel ?
C'est-à-dire que quand on a une démarche un peu plus traditionnelle, artistique, entre guillemets, et qu'on n'a pas la liberté qu'apporte le numérique du repentir à l'infini, l'art n'est de contrainte quelque part aussi, ça oblige à prendre position à un moment donné et d'affirmer une démarche forte, de dire, j'ai pas 100 possibilités de revenir en arrière, je fais un mouvement que je peux éventuellement corriger une fois, mais c'est tout. Quelque part, ça oblige aussi à une démarche, à une personnalité, à quelque chose un petit peu plus casse-gueule, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du métier d'artiste, c'est que l'œuvre, si on en met trop, c'est pas bien, et si on en met pas assez, c'est pas bien non plus.
Ça me rappelle quand Denis parlait de son affiche et qu'il allait très très loin dans le détail, et puis en prenant du recul, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas complètement utile d'avoir passé autant de temps dessus. Ah. Le numérique, tout à l'heure tu disais que ça faisait gagner du temps, mais ça fait parfois perdre beaucoup de temps.
C'est sûr que ça peut être un piège aussi. À force de pouvoir retoucher, on finit par passer énormément de temps là-dessus. Finalement,
ça aurait été plus galère de déplacer la Tour Bretagne.
Mais c'est un problème que les scénaristes et les romanciers connaissent avec le copier-coller. Hein.
Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire qu'on peut sans fin retoucher son image, comme nous, on peut retoucher sans fin notre texte, finalement.
On va peut-être laisser quelques questions dans la salle, si c'est possible. Et si... Bon, alors là, vu le nombre de questions, je ne sais pas si ça va être possible. Mais...
Oui, montrez. Bonjour, j'aurais souhaité savoir si vous aviez un avis sur le pixel art. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, en gros, de l'art issu des amateurs de jeux vidéo des années 80, un peu vintage en gros, donc avec des gros carrés. Et donc, il y a des artistes qui sont emparés de ça, certainement par, pas par nostalgie, parce que c'est vraiment pas le mot, mais... parce qu'ils aimaient bien ces ambiances-là et donc ils ont commencé à refaire de l'art avec des personnages en très très basse résolution. Donc on obtient des choses qui sont quand même vachement belles et intéressantes. Voilà, donc,
en fait, vous êtes venu à la conférence parce que ça s'appelait Art et Pixel et en fait vous vouliez qu'on parle de pixel art.
Absolument pas, mais comme on n'en parle pas et que je pense que ça pourrait être l'occasion d'en parler. Voilà.
Je sais pas si quelqu'un pratique parmi nous.
On s'est un peu axé sur la bande dessinée, non, effectivement, vu les auteurs présents sur scène. C'est vrai qu'il y a une grosse présence du jeu vidéo au festival et on aurait pu effectivement convier aussi des professionnels plus du jeu vidéo.
Alors moi j'ai pas grand chose à dire sur le pixel art, je suis désolé. Par contre j'ai pensé à quelque chose après, j'ouvre une voie de réflexion pour ceux que ça pourrait intéresser. Après tout, une des formes pour répondre à ta question, quel apport peut avoir le numérique par rapport à la bande dessinée, etc. Peut-être qu'une des nouvelles formes envisageables pour la bande dessinée, en tout cas qui sera peut-être plus de la bande dessinée mais autre chose, c'est à chercher du côté de la réalité virtuelle et des casques de réalité virtuelle, justement du jeu vidéo, etc. quoi. Puisqu'on explore de nouvelles manières de raconter des histoires de manière plus interactive, on va dire, et plus immersive. Est-ce que c'est une piste ou pas ? J'ouvre la question, c'est tout.
C'est amusant, je parlais de ça avec un cinéaste. Dans le cinéma en ce moment, c'est la grande angoisse. C'est le cinéma en réalité virtuelle, à 360 degrés. Ils se posent vraiment la question parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un potentiel de développement pour la pratique. Et il y en a une bonne partie qui est furieuse, qui déteste ça, et l'autre partie qui est très excitée. Donc c'est assez amusant. Je pense qu'on est tous focalisés par ces nouveaux moyens. Par ces nouveaux moyens.
Il y a un petit malentendu néanmoins là-dedans, parce que l'essence du cinéma repose quand même principalement sur le montage, chose qu'on n'a pas dans le théâtre, et donc non seulement la rythmique du montage, mais également la valeur de plan, c'est-à-dire est-ce qu'on est rapproché, est-ce qu'on est plan large, chose encore qu'on n'a pas dans le théâtre, et puis on montre des images, chose qu'il n'y a pas dans la littérature. une réalité virtuelle, donc un environnement visuel sur 360 degrés, c'est nous qui ferions la mise en scène, et sans montage, donc sans travail sur la temporalité, sans ellipse, narratif temporel, ça serait, je ne dis pas que ça ne serait pas intéressant, mais le comparer au cinéma est un peu absurde, ça serait quelque chose d'autre.
Non, ils réfléchissaient à ça justement, comment, à quel moment le point de montage se ferait en fonction du regard qu'on jetterait au bon endroit, et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on serait avec un art du montage, un art du cadrage, mais voilà, à un moment on passerait au bon endroit pour que le montage ait lieu et tout. C'était passionnant de les écouter parler, parce que voilà, ils voulaient retrouver le cinéma à l'intérieur de cet objet-là. De la même manière que je pense que à l'intérieur de la page web, on peut essayer de retrouver la bande dessinée. Des fois la plus simple, mais dense. Moi, on pense à l'exemple connu de Boulet, simplement le jour où il a eu l'idée d'utiliser le petit doigt pour faire rouler sa roulette et que la page soit verticale et sans fin, il a apporté quelque chose de fondamental à la bande dessinée. Quoi. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée, mais j'ai l'impression. Quoi. Et, en tout cas, c'est chez lui que je l'ai vu la première fois. Mais, et voilà, et c'est clairement une page de bande dessinée, mais une sorte de page de bande dessinée sans fin. Quoi. Sans basse, enfin, à un moment ou à un autre, elle se termine. Et c'est des vrais petits apports tout bêtes comme ça qui n'ont pas du tout nié notre narration traditionnelle. Il reste par bout de côté un auteur de bande dessinée très traditionnel. Mais on a cet apport de cette lecture. Et alors, c'est vrai que par exemple, je me souviens de personnages, on descend avec la roulette de sa souris dans la page et le personnage chute comme ça pendant l'équivalent de 3-4 pages de défilement. Et on a ce petit effet qui est simplement le fait de dérouler le rouleau du sopalin comme ça pour avoir la suite de l'histoire. Voilà, c'est des petites inventions, tu vois. Je pense qu'on est dans cet exercice-là. Le moment où on remet aussi notre pratique à l'intérieur de choses beaucoup plus compliquées, en restreignant à nouveau à ce qu'on sait faire, mais avec un ou deux apports légers. C'est assez étonnant, quoi.
Si vous avez d'autres questions dont la réponse pourrait être oui ou non, allez-y.
Voir peut-être.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question effectivement à laquelle vous pouvez répondre oui ou non. Est-ce que le numérique va entraîner sous peu une baisse des prix des BD?
Pour l'instant, la version numérique des BD est à peine moins chère que la version papier. Je ne vois pas trop ce qui pourrait amener les éditeurs à baisser les prix.
Alors, ça a provoqué une baisse des coûts chez les éditeurs, importante, puisque de fait, que ce soit la chaîne graphique chez l'imprimeur, c'est beaucoup simplifié. Même quand c'est du papier, en général, maintenant, c'est les auteurs qui font leur scan eux-mêmes. Ça a provoqué une importante baisse de coût chez les éditeurs qui a servi à financer plus de livres. Donc de fait, une partie de la surproduction d'aujourd'hui vient de la baisse des coûts provoquée par le numérique. En général, quand les éditeurs font des économies, ils ne les donnent ni à leurs auteurs ni à leur public. Ils en profitent pour investir plus le marché et ce qu'on peut comprendre, hein, c'est le principe même de l'entreprise, d'investir quand on peut. Mais voilà, je n'attendais pas une baisse des prix sur le papier, en tout cas, à cause de ça. Après, la baisse des prix des BD numériques, c'est la chose qui peut effrayer le plus les auteurs, car les formules d'abonnement où la lecture est bradée, etc., c'est clair que c'est une perte énorme de leurs revenus. Moi, je fais partie des auteurs qui pensent qu'on devrait diffuser gratuitement sur Internet nos contenus. Quand j'étais petit, la lecture de la bande dessinée était répandue et gratuite partout. On lisait à la FNAC, on lisait en bibliothèque, et moi j'avais pas l'argent et j'achetais pas les BD, donc j'ai lu gratuitement pendant 15 ans, 20 ans. Puis un jour j'ai eu un peu d'argent, donc j'ai commencé à acheter des albums. J'ai parfois l'impression que finalement on devrait diffuser nos contenus dans leur version éventuellement numérique médiocre, et on parle pas de création purement numérique, là on parle vraiment de la bande dessinée papier, hein, je le précise, les diffuser gratuitement pour que les gens les lisent, et puis s'ils aiment, eh ben, ils ont acheté les livres à un moment ou à un autre pour les relire dans les meilleures conditions.
Mais c'est bon, une merveilleuse conclusion, Denis, oui. Mais vous avez dépassé votre temps. Je vous embrasse
tous.
Je vous
remercie.
C'était une super table ronde.